Je n'ai pas peur de dire que tu me fais peur. Avec ton espoir et ton grand sens de l'honneur, tu me donnes envie de tout détruire, de t'arracher le beau sourire. Et même ça n'est pas pourquoi je me sens coupable. C'est ça le pire.
Les procès. À l'époque, physiquement et psychiquement, je ne suis pas alignée. Parfois, j'ai l'impression de ne pas être vraiment là, de marcher trois pas derrière moi. Cotonneuse, c'est le mot que j'utilise souvent pour parler de mon état. Et puis, dans les moments de gros stress, je peux carrément déconnecter. Du coup, de ces 3 et 5 jours de procès, il ne me reste quasiment rien. Ce n'est pas qu'avec le temps j'ai oublié, c'est que sur le coup, je n'ai juste pas imprimé. Choc traumatique, dissociation, c'est ça l'idée. Ce qui suit est donc un mélange décousu de sensations, de souvenirs plus ou moins flous, d'épisodes qu'on m'a racontés ou que j'ai relus dans mon dossier. Mon avocat me dit qu'il faudrait que j'enlève mes piercings et m'habille un peu plus sagement pour le procès. Je suis dans une boutique, j'achète des chaussures trop chères pour moi avec des petits talons sur lesquels je ne sais pas marcher, un pull fuchsia qui ne me va pas et un pantalon un peu serré. Le lendemain, j'ai un coup de fil de ma banque, un mec me dit que j'ai dépassé mon découvert autorisé. Je hurle dans le combiné que j'en ai strictement rien à carrer. Le premier procès se passe à la cour d'assises de Rouen. Devant l'entrée, il y a des tourniquets de sécurité qui ressemblent à des petites cages individuelles dans lesquelles on est obligé de passer. Puis on vide nos poches et on est scanné sous des portiques de détection. Je me dis que ça doit être pour éviter que quelqu'un pète un plomb et flingue tout le monde. Ça ne me rassure pas du tout. Avant d'entrer, j'attends mon avocate. En arrivant, elle est déjà costumée de sa large robe noire et de son col blanc de procès. Moi, je me sens dégueulasse dans mes nouvelles sapes. De toute façon, je le sais, je ne suis pas belle à voir. Je n'ai tellement pas envie d'être là, malade à l'idée de ce qui va se passer, totalement dépassée. Le palais de justice, lui, est magnifique. Le style, c'est gothique flamboyant. Il y a même des touristes qui s'extasient devant. Moi, je m'en fous complètement, je suis clairement incapable de profiter de la beauté du bâtiment. La salle d'audience aussi est belle pourtant. Le mobilier est tout en bois et les peintures au mur sont dorées et bleu roi. Sur cette salle, par contre, assise face à Édouard, j'aurai tout le temps de m'attarder. Au fond de la salle, il y a une longue estrade surélevée. C'est là que siégera la cour. Avec mon avocate, on est installé tout à gauche, à la perpendiculaire. Entre nous et la cour, sur la même ligne, il y a l'avocate générale, avec sa robe rouge et sa moumoute blanche tachetée. Elle aussi est surélevée. Nous, on est au niveau du sol, face à la ligne de l'accusé. À ma droite, 2 rangées de bancs séparées par une petite allée. C'est pour le public. Et au centre de ce grand carré, il y a la barre, là où on va tous être interrogés. Moi, je suis là pour dire la vérité et pour prouver et me prouver que je ne suis pas complètement tarée, ni menteuse, ni salope. Ça fait 8 ans que je tiens. 8 ans que ça traîne. 8 ans que je me répète. Que je me re-répète. 8 ans que ma parole est mise en doute, qu'on m'insulte, qu'on me traite de menteuse, de pute et de droguée décérébrée. Ça fait 8 putains d'années que je suis abîmée par leurs conneries. Ce n'est pas le viol qui m'a salie, c'est la suite. Depuis 8 ans, je suis salie et pas lavée. Aujourd'hui, j'ai besoin d'entendre et de faire entendre que je suis victime. L'enjeu est grand, mais sûrement moins que pour Édouard. La cloche sonne. À ma droite, un gars annonce « Mesdames, messieurs, la cour ». Il faut se lever. Derrière la grande estrade, une porte s'ouvre. La présidente, en robe rouge et collerette blanche, apparaît, suivie de 2 personnes un peu plus sobrement habillées, les assesseurs. Vous pouvez vous asseoir. Le spectacle peut commencer. C'est parti pour 3 longs jours de procès. J'ai décidé de faire le mien ouvert. Quiconque le souhaite peut donc y assister. Je tiens ma ligne, je n'ai rien à cacher. Quant à mon amour-propre, il a déjà 1000 fois été piétiné. Il est 9h, les témoins du jour sont là, assis de part et d'autre des bancs, côté Édouard ou côté moi, selon les affinités. Tous te sont invités à rejoindre une salle en sous-sol, car tant qu'elles n'ont pas été auditionnées, elles ne peuvent pas assister au débat. J'imagine l'ambiance là-bas. Toutes ces personnes qui ne peuvent pas se piffrer, encadrées par 4 keufs pendant de longues heures, dans une toute petite pièce à éviter de se regarder. Du coup, au début, sur les bancs, côté moi, il n'y a que mon mec. Après ça, c'est la constitution du jury, avec les jurés d'assises. Les jurés, ce sont des gens tirés au sort parmi la population votante et alphabétisée. La présidente appelle le premier. Monsieur Machin, l'homme se lève, arrive au milieu de la salle quand, récusé, débute alors une longue liste de noms et de personnes qui défilent, que nos avocats, avocates peuvent décider de garder ou pas, selon des critères qui, de mon point de vue, restent un mystère, mais dont on peut se douter qu'ils sont liés au sexe, à la race, à l'âge, à la profession ou à la classe sociale présumée des intéressés. Une fois le jury constitué, la cour est au complet. Ça commence par l'énonciation des accusations, puis on passe à mon cousin, son enfance, sa vie, son œuvre et sa version des faits. Je crois que ça dure presque une journée. Puis c'est à moi, ma vie, mon œuvre et ma version. Ni lui ni moi n'avons à jurer de dire la vérité. L'un comme l'autre, nous répétons nos témoignages contradictoires, on recompose le récit avec tout le temps passé, avec l'oubli. Avec le mensonge aussi pour lui. Et puis nous sommes interrogés. Pour témoigner, il faut se lever et marcher jusqu'au petit promontoire. Je suis agrippée à la barre, je sens très fort le poids de tous les regards. Après avoir librement refait le récit de cette putain de soirée et de tout ce qu'elle a entraîné, mon avocate me pose une question. Objection ! Une autre. Mais objection, votre honneur, objection ! C'est comme ça tout du long. D'un côté les questions, de l'autre les objections. Et moi je suis le machin au milieu qui se force à rester droite et à ne pas regarder les connards à ma droite. Puis les rôles sont inversés, c'est leur tour de m'interroger. Je ne me souviens de rien à part de cet échange de fin. Quand vous avez prétendument retrouvé cette culotte dans le jardin, comment avez-vous justifié cela auprès des gens présents ? J'ai dit qu'elle avait dû tomber de mon sac. Vous avez dit qu'elle avait dû tomber de votre sac ? Oui. Et était-elle réellement tombée de votre sac, cette prétendue culotte ? Non. Non ? Donc vous avez menti ? Oui. Vous êtes donc tout à fait capable de mentir ? Oui. Merci, je n'ai plus de questions, votre honneur. Tout au long du procès, les avocats avocates d'Edouard sont d'une grande agressivité. À son image, me dit Isabelle Duruflet, avant de rajouter, c'est parfait, la présidente est agacée. Ok, c'est toujours ça de gagner. Vient ensuite le défilé des gens à comparaître. Un flic ou deux qui, pour ne rien changer, ont manifestement très mal travaillé, les oncles, tantes et parents, la cousine, l'ex-femme, la nouvelle femme, un CPE, le premier amoureux, quelques amis d'hier et d'aujourd'hui. Au total, une quinzaine de témoins et trois experts psychiatres sont appelés à la barre. Devant un expert psy, Edouard s'énerve. Le test qu'on lui a fait passer, il dit que c'est de la connerie. Il parle de Rorschach. Je le connais moi aussi, j'y ai eu droit il y a plusieurs années de ça. À l'époque, à chaque carte que le psy me montrait, je rigolais parce que ce que je voyais, c'était des chattes, des bassins, des vues du système sexuel et reproductif féminin. Je me souviens lui avoir dit « Non mais franchement, soyez honnête, vous aussi vous ne voyez que des sexes ». Le psy avait souri. « Et non, on peut y voir des papillons, des crabes ou des chauves-souris », m'avait-il dit. Bref, devant la cour, Edouard ce qu'il dit, c'est qu'à l'époque, il avait vu des verges, mais qu'il avait gardé ça pour lui. Bah oui, parce que sinon le psy aurait tout de suite conclu que c'était un agresseur sexuel. À ce moment-là, intérieurement, je ris. Incroyable ce test, je me dis. Mon expert psy intervient lui aussi. Ce gars-là, j'ai dû le voir 5 ou 6 fois, et c'était il y a un paquet d'années de ça. Dans un couloir, il vient me voir et me remercie. Merci pour ce que vous faites, c'est ce qu'il me dit. Ces remerciements, ils sont tellement contradictoires avec ce que je ressens. Je ne suis pas actrice de ce que je vis. Et si j'avais le choix, je ne serais pas là. Bref, je ne comprends pas pourquoi il me dit ça. Je ne comprends pas, mais je suis touchée. C'est au tour de mon amie Lénaïque d'y passer. Depuis l'histoire avec Bastien, on s'est réconciliés. En plus du coup de fil le lendemain du viol, elle raconte ma chambre d'ado, le bordel, la crasse qui y règne et la défonce. Rien de plaisant à entendre, évidemment, et ce jour-là, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle dit tout ça. Sur le coup, je lui en veux beaucoup. Il y a Siméon aussi, le beau gars aux yeux bleus, le premier amoureux. Je ne l'ai pas revu depuis 8 ans, c'est méga malaisant. Mes parents, je suis gênée de les voir là, obligée de s'exprimer et de se faire interroger. Et puis il y a les menteuses. Maggie, qui au moment du serment de vérité crache un « je le jure » très appuyé, en levant le bras droit en mode nazi. Ça doit être l'émotion. Un à un et une à une, mon avocate les questionne. Dites-moi, selon vous, pourquoi Marion aurait-elle inventé tout ça ? À chaque personne sa version. C'est une droguée, elle s'est tout imaginée. C'est un complot. elle a été manipulée par son oncle qui nous déteste et veut nous voir tomber. Elle veut de l'argent. Elle a sûrement été violée, mais par quelqu'un d'autre. Elle est jalouse de la réussite d'Edouard. C'est un mystère, je ne sais pas. Et bien sûr, elle aurait aimé, mais elle s'est vue refuser, donc elle a fait ça pour se venger. Pendant ces 3 jours, il y a plusieurs interruptions de séance. De l'autre côté, dans le public, ça siffle salope de temps en temps, ou menteuse, ou connasse. Ma mère aussi se fait insulter. À plein de moments, je ne me sens pas en sécurité. Partout où je vais, je me fais accompagner. Un midi, on déjeune en terrasse, Edouard passe et dit bien fort. On reste pas là, ça pue la merde ici. C'est l'heure du réquisitoire de l'avocate générale. Debout sur son perchoir, elle compare cette histoire au film Very Bad Trip, une référence cinéma que je n'ai pas. Elle requiert une peine de prison, une grosse si mes souvenirs sont bons. Puis on passe aux plaidoiries de nos avocats-avocates, un moment important, une sorte de résumé situé des 3 jours qui se sont écoulés. L'idée, c'est de finir de convaincre les jurés, et selon le bord où on est, jouer sur la corde sensible, appuyer sur le doute. Ça parle de grande responsabilité et d'intime conviction. Après Isabelle Duruflé, c'est le tour de celui que tout le monde de mon côté se plaît à appeler le petit roquet. Les débats sont bouclés. C'est le temps du délibéré. La cour se retire pour un temps indéterminé. On va se poser dans un café, mais à peine 2h30 après, mon avocate est appelée. Ça y est, la cour a délibéré. Ça a été rapide. Ça veut dire que c'est mauvais. C'est pas forcément bon, en effet. La cloche sonne, le petit monsieur à ma droite annonce la cour entre, la cour s'installe. Vous pouvez vous asseoir. Accusé, levez-vous. À la question « Monsieur Machin est-il coupable d'un viol sur la personne de Marion Plumet commis à Épreville dans la nuit du 16 au 17 août 2003 ?» La majorité a répondu « Oui ». D'autres questions s'enchaînent. État psychique du coupable, préméditation, alcoolisation. Puis la peine est prononcée. 7 ans d'emprisonnement. J'entends Edouard crier « Maman » et je le vois s'écrouler. Ça va très vite. Édouard est menotté, sa famille et ses amis se mettent à hurler. Je me fais allègrement insulter. Mon oncle est ouvertement menacé. Le père de Jenny promet de le buter. Une foule de flics débarque dans la salle et fait barrière entre les deux côtés du public. J'ai gagné. Les jurés se sont retirés. Je n'ai même pas eu le temps de les regarder pour les remercier. Après ça, ce sont les dommages et intérêts. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, je n'en veux pas. Mon avocate me souffle que je n'ai pas le choix, que c'est la loi. 10 000, c'est le minimum. Plus les frais du cabinet. 10 000 est validé. Des salopes résonnent derrière moi, soi-disant qu'elle faisait pas ça pour l'argent. Je ne suis pas la seule à être terrorisée. La présidente menace de faire évacuer la salle, puis ordonne de nous faire escorter, Max, son épouse, qui elle aussi a témoigné, mes parents et moi jusqu'à nos voitures. En attendant, les autres sont retenus dans le tribunal. La présidente et les assesseurs se retirent, ça gueule fort, c'est très tendu et je panique. Avec mon mec, je suis encadrée par 4 flics. On court, je suis en pleurs. Ça y est, cette putain d'étape est passée. Difficile toutefois de savourer la victoire, les cris d'Edouard, les pleurs, toute cette douleur. Et puis les menaces, plus que jamais, me font vriller. J'ai fait condamner leur fiston adoré, j'ai peur d'être suivi et que cet arrêt me fasse tuer. Quelques semaines plus tard, mon téléphone sonne, c'est Forster. Edouard fait appel. On m'y avait préparé, il y aura un second procès. La surprise n'est pas là. Non. La surprise, c'est qu'il a changé d'avocat. Dorénavant, c'est Éric Dupond-Moretti qui le représentera. Un petit tour sur Wikipédia. Début de carrière, blablabla, médiatisation et notoriété, blablabla. En décembre 2008, il détient le record des acquittements, 74, obtenus sur le territoire français. Pour ses résultats, il est surnommé « acquittator » dans les prétoires. Ses victoires lui valent aussi le nom d'ogre du Nord. Dupond-Moretti, donc. Je suis effondré. Ça n'aurait pas pu être pire. Mon avocat, lui, est aux anges. Cette fois, bien sûr, c'est lui qui plaidera. Il semble très satisfait, presque excité. Il y a un peu de défi et ça lui plaît. Suite au procès, je suis contactée par Karine Dufour, une journaliste télé. Elle me propose de participer à un docu sur le parcours judiciaire des victimes de viol qui ont osé parler. À l'époque, le mouvement féministe des années 70 est oublié, DSK n'a pas encore violé Nafissa Toudiallo, Clémentine Autain n'a pas encore lancé son manifeste « Je déclare avoir été violée ». Quant au mouvement MeToo, il va falloir attendre quelques années pour le voir arriver. Bref, en 2011, le viol, on n'en parle pas. J'accepte de témoigner. Entre les deux procès, je reçois tout un tas de courriers. Évidemment, ça parle d'Edouard. Edouard ceci, Edouard cela. Les ouvrir est toujours une tannée. En plus, c'est écrit dans un jargon à la con. En application de l'article 197 du Code de procédure pénale, j'ai l'honneur de vous prier de prendre note que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen sera saisie à son audience du blablabla. Janvier 2011, objet, demande de mise en liberté. Mars 2011, objet, demande de mise en liberté. Mars 2011, objet, demande d'assignation à résidence sous surveillance électronique, mobile. Août 2011, objet, demande de modification horaire de l'assignation à résidence sous surveillance mobile pour le week-end du 6 et 7 août 2011, plus autorisation donnée du SPIP de procéder à ces modifications d'horaire pour l'avenir.
Septembre 2011, objet, contrôle judiciaire. Septembre 2011, objet, renouvellement éventuel d'assignation à résidence
sous surveillance électronique mobile. Novembre 2011, objet, demande de suspension de l'obligation de ne pas s'absenter de sa résidence. Demande de fin de placement sous assignation à résidence sous surveillance électronique mobile. Mars 2012, objet, renouvellement assignation à résidence sous surveillance électronique mobile. Mai 2012, objet, modification obligation ARSEM. Très vite, Edouard n'est donc plus en prison, mais de retour à la maison, sous bracelet. Je me sens toujours en grande insécurité, cette nouvelle ne m'aide pas à me rassurer. Le bracelet, si ça se trouve, il peut réussir à l'enlever. Le procès en appel a lieu un an et demi après le premier. On est en septembre 2012, cette fois ça se passe à Évreux et ça dure 5 jours. Grosso modo, ça ne change pas trop. Même mise en scène, même défilé de témoins, mêmes experts. Une star en plus. Dupont-Moretti, à ce moment-là, est sur l'affaire Mera. Dans quelques mois, il défendra le frère Abdelkader pour complicité d'assassinat. À côté de ça, notre affaire, c'est du pipi de chat. Du coup, pendant l'audience, il n'arrête pas de s'absenter pour téléphoner. Quant à moi, je suis accompagnée de mes deux avocats, avocates. Ce coup-ci, les parents d'Edouard sont là. La dernière fois, ni sa mère ni son père n'avaient pris la peine d'assister au procès. Et elle n'allait quand même pas s'abaisser à ça. Et puis, à ce que j'en sais, pour elle, eux, c'était gagné d'avance avec leur avocat-avocate grassement payé. Bref, face à une pisseuse comme moi, elles ne pensaient pas avoir besoin de se déplacer. Mais là, ça y est, elles ont capté, c'est du sérieux, la pisseuse fait bien chier. Le père d'Edouard sera interrogé, sa mère non, pour des raisons de santé. Ma tante Maggie profite d'une suspension de séance pour se faire dédicacer « Bête noire », le bouquin de Dupont-Moretti. Devant la salle d'audience, je croise le regard de son mari. Il me sourit d'un air gêné. Ça se voit qu'il a honte d'être là. Le pauvre, il me fait pitié. Quand c'est mon tour de passer, la présidente me demande ce que j'attends de ce procès. Je réponds, la vérité est que tout ça s'arrête. Je dis que ça a beaucoup trop duré. Je dis que je n'en peux plus et que tout le monde souffre autour de moi. Je dis aussi que ça fait des années qu'Edouard doit être en prison dans sa tête et je dis que je ne veux pas qu'il reparte en détention. D'autant plus que je sais que s'il doit repasser longuement par la case prison, on sera bon et bonne pour la cour de cassation. Le simple fait de savoir que je vais être interrogée par Dupont-Moretti me file la nausée. Forster et Duruflé me disent que, pour ne pas me faire déstabiliser, faut juste pas le regarder. Répondre à ces questions et fixer la cour, voilà ma mission. Malgré leurs conseils avisés, je le regarde de temps à autre, pleine de peur et de dédain. Plus tard, Dupont-Moretti fait pleurer une de mes amies. C'est la copine des Beaux-Arts. À la barre, avant les questions du grand con, elle raconte une agression qu'elle a subie à l'époque où on était très amis. Un jour, son proprio avait sonné à sa porte, il s'était défroqué, lui avait montré sa bite et lui avait demandé de le sucer.
Suce-moi, ma poule. Suce-moi, ma poule.
Elle avait réussi à fuir, mais après ça, il avait continué de la faire chier et elle était terrorisée. Puis elle raconte comment à l'époque je lui avais fait ouvrir les yeux sur la gravité des faits, comment je l'avais aidée, poussée à porter plainte et à déménager. Après son témoignage, je ne sais plus exactement comment ce connard de Dupont-Moretti s'y prend, mais il la démonte totalement. Après la journée, histoire de débriefer et de relâcher la pression, on boit un verre avec les témoins du jour. Un soir, ma mère commence à sérieusement délirer et va jusqu'à s'écrouler inconsciente sur la terrasse du bar. Pourtant, elle n'a pas bu tant que ça, du moins je ne crois pas. Je suis à la fois atterrée, inquiète, désolée et terriblement fâchée. Je ne supporte pas de la voir comme ça, de la voir faire ça, de me faire ça. Putain, c'est mon procès, mon moment, ma souffrance. Mon CPE de l'époque, qui est venu témoigner, me faire descendre. Il me dit « Tout ça est très violent pour ta maman ». Il me dit aussi que j'ai de la chance d'avoir des parents qui me soutiennent, que lui, il en a vu des cas où les parents ne suivent pas. On arrive aux plaidoiries. Forster est très doué. Il arrive même à faire rire les jurés. Pendant pas loin d'une heure, il plaide sans notes. Moi, le seul souvenir que j'en ai, c'est son odeur avant d'y aller. Il puait vraiment fort. Je me dis que lui aussi devait stresser. Puis vint le tour de Dupont-Moretti. Pour commencer, il se confie. Il raconte qu'enfant, lors d'une balade à vélo sur des chemins de campagne avec son frère, il a semé ce dernier. Quand il l'a retrouvé, son frère était sur le côté, vélo à terre. Il venait d'être violé. Plein d'émotions, il dit toute la culpabilité qu'aujourd'hui encore il se traîne de ne pas avoir su protéger son cadet. Bah oui, Éric Dupont-Moretti, les violences sexuelles et les répercussions sur les victimes, c'est intimement qu'il les connaît. Et jamais, au grand jamais, il prendrait ça par-dessus la jambe. Connard.
Monsieur Connard.
Édouard est jugé coupable. Il écope de 2 années d'emprisonnement. Il en a déjà purgé 1 et demi. En gros, il lui reste 6 mois à tirer et je crois que ça se fera sous bracelet. La cour m'a écouté, du moins c'est comme ça que j'interprète. Je le regarde face à la cour, il hoche la tête et dit merci. Waouh. Il a dit oui. Il a dit oui. C'est pas le plus beau jour de ma vie, mais c'est la première fois qu'il acquiesce. C'est la première fois qu'il accepte et par là même qu'il admet les faits, le jugement, la peine. Ce geste, même s'il ne m'est pas destiné, est un énorme soulagement. Je ne suis pas folle, il a admis. Sur les bancs, c'est eux qui le soutiennent, jubilent et nous moquent. Alors vous êtes déçus, hein ? Vous auriez aimé le voir tomber ? À croire qu'elles n'ont rien écouté. Putain, quelle bande de nazes. Acquittator semble quelque peu dépité et lâche un « Bah si tout le monde est content, alors c'est parfait. » Voilà, tout ça pour ça. Ça aurait pu être plus simple, moins destructeur et moins douloureux. Si Édouard avait répondu à mes appels, s'il s'était excusé, s'il avait été moins lâche, s'il n'avait pas été couvert par toute une partie de notre famille vérolée par les viols passés, verrouillée par le déni, abrutie par la tradition et les qu'en dira-t-on. Si les flics n'avaient pas été ses collègues de chasse, si dès le début le parquet s'était montré conséquent et avait pris ma plainte au sérieux, si mon dossier n'avait pas été perdu par des gens incompétents ou malveillants, si avoir un bon avocat n'était pas décisif pour aller en justice face à des personnes qui ont de l'argent, si j'avais bénéficié d'une prise en charge psychologique, si je n'avais pas été traité comme plus suspecte que le suspect, si les délais de procédure avaient été moins scandaleux, bref, si je n'avais pas été à ce point méprisée, du viol jusqu'au procès. Si tout ça s'était passé différemment, j'aurais peut-être été moins folle, moins angoissée, moins addicte, moins migraineuse, moins hypochondriaque, moins excessive, moins battante, moins en colère. Mais cette fois, c'est bel et bien fini. La cour l'a acté, il y a 9 mois et 1 an, le lendemain de son mariage, sous les fenêtres de sa mère et le regard d'une vierge en plâtre, mon cousin Édouard m'a violée. Je suis dans un état second, soulagée mais incapable de me réjouir. Tout ce qui sort, ce sont des pleurs. Maintenant, je vais devoir réapprendre la vie sans peur. Et promis, c'est ce que je vais faire. En mieux.
Durante la mia passeggiata solitaria, ho pensato ai miei amori passati e ho fatto delle scelte per i miei amori futuri.